Bonjour et bienvenue sur Monnaie Libre, nouvel épisode aujourd'hui avec un des développeurs phares hein, du projet d'Unitaire puisqu'il s'occupe du logiciel Sakya, c'est Inso. Salut Inso.
Salut Stéphane.
Alors tu es avec nous pour cette émission, on va voir quel est ton bilan à toi des RML8. On avait vu avec Cedric qui nous a fait son point de vue là, sur la dernière émission. Maintenant ça va être à toi. On parlera aussi forcément RML9 pour rappeler aussi ce qu'il en est. Et puis bien sûr on va parler de toi, on va parler de Gtest, la nouvelle monnaie. On va parler de Sakya bien sûr, voilà, qui est quand même ton projet phare qui est en développement et qui est très mature aujourd'hui avec une nouvelle interface, tu nous en parleras. Et puis on parlera aussi plus généralement d'économie et de monnaie libre et de théorie relative de la monnaie, puisque tu t'es lancé sur ton blog cette année, l'an dernier en 2016. Tu as lancé ton blog et tu as fait 5 premiers posts, notamment alors 4 qui parlent de TRM monnaie libre et qui sont, je trouve, extrêmement pertinents et qu'on va balayer un petit peu pour que les auditeurs puissent se rendre compte que ça vaut la peine d'aller les lire, ces posts-là. Donc on verra ça donc avec toi. Alors d'abord, pour démarrer, donc Inso, t'es là, t'es quand même sur le projet depuis longtemps, depuis presque le début en fait déjà.
Ah oui, puisque je suivais déjà OpenUDC à l'époque où Gibert travaillait dessus, donc ça fait quasiment 4 ans.
Et oui, voilà, donc t'es déjà de l'époque de Gibar, c'est tout à fait exceptionnel, et tu étais, même d'ailleurs un des premiers à avoir fait des tests numériques sur la TRM et la monnaie libre, hein. Tu avais essayé de simuler, mais t'étais pas arrivé à l'époque, hein, je crois bien.
Ouais, on avait essayé effectivement de simuler le DU et l'impact, même l'impact de la monnaie, etc., de manière relativiste. D'essayer de comprendre un peu les applications de la TRM. Bon, ouais. C'était il y a 4 ans, je ne maîtrisais pas encore tout comme aujourd'hui. Donc,
ouais, aujourd'hui, tu saurais faire plus vite. Hein.
Ouais, et puis ce serait moins flou ce que je chercherais, je pense.
Ouais, voilà, il y a aussi ça, parfois. Oui, alors souvent, oui, quand on ne trouve pas, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. Ouais,
exactement.
c'est un peu lié. Alors, donc... on va parler donc. Alors, c'est superbe, 8e rencontre des monnaies libres. Donc, cette année, c'était à Toulouse. Alors, quel est ton avis? Comment tu as vécu ça? Bon, d'abord, le choix de la ville, c'était pas mal quand même, Toulouse.
Ah, ouais, franchement, j'ai adoré la ville. Moi, je suis rennais, donc ça a été une découverte pour moi, Toulouse. C'est ma deuxième ville préférée en France maintenant.
Après laquelle? Après Rennes?
Après Rennes, évidemment.
D'accord. Alors, comment tu as vécu ces RML8? Comment ça s'est passé? Quel était ton vécu? Qui t'as pu peut-être rencontrer des contributeurs nouveaux, dès que tu connaissais sans doute? Comment ça s'est passé pour toi?
Moi, je suis venu les deux journées techniques, puisque c'est celle qui m'intéressait le plus, parce que j'avais envie d'être efficace dans ma participation. Et ces journées techniques, ça a été très très intéressant, puisqu'on a pu voir un peu d'autres choses que d'habitude, notamment c'est Geek qui nous a montré comment développer des nœuds de manière modulaire. Donc là, tout le monde s'y est mis, même moi qui avais un peu codé dans Unitaire, pour le coup j'ai pu faire des choses un peu plus utiles. Après il y a Moule aussi qui nous a présenté son nouveau client en Python, donc ça nous a permis d'échanger là-dessus, voir qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on converge vers les mêmes librairies, etc.
Ouais.
Il y a Benoît qui nous a présenté Cesium avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Il nous a montré aussi du coup ES API là, pour la première fois. On a pu voir un peu comment ça marchait. Donc ouais, c'est vraiment très riche techniquement. Moi, j'avais rien à présenter puisque Sakya était encore en cours de refactoring, donc j'avais pas grand chose à montrer à ce moment-là.
Ouais.
Mais par contre, j'ai pu quand même présenter toute la partie d'unitaire d'un niveau, comment fonctionne le réseau, comment fonctionne le protocole. Les gens ont été très intéressés, ils ont assez vite compris finalement, donc c'est qu'on commence à réussir à expliquer ça de manière efficace.
Oui, c'est-à-dire quand tu veux dire au protocole, c'est comment fonctionne la blockchain, les communications entre les nœuds, ce genre de choses.
Exactement.
Voilà, donc en fait, c'est là qu'on voit que finalement, alors ça c'est un point important, parce que c'est là qu'on voit quand on est développeur comme toi et comme quelques autres maintenant, puisqu'il y a 3 clients, puisque Sakya, bien sûr Cesium, qui sont les plus avancés, mais il y a aussi Silkage donc, qui a fait son apparition, comme tu disais, c'est le client que développe Moule en Python aussi, qui est en ligne de commande.
Ouais, en Python, ouais.
Et quand on développe ses clients, forcément, on acquiert automatiquement, petit à petit, une expertise sur Unitaire lui-même.
Bah oui, c'est ça, en fait, on commence à comprendre comment fonctionne le réseau, et rien que comprendre comment fonctionne le réseau permet de comprendre comment fonctionne chaque nœud individuellement ensuite.
Ouais.
Donc voilà, vraiment, c'était vraiment très riche. Du coup, on a pu découvrir plein de contributeurs qui n'étaient encore jamais venus au RML.
Alors lesquels? Est-ce que tu...
Notamment, moi, c'était Mamie Geek qui nous a le plus surpris. Et puis après, il y avait comment il s'appelle?
Ah oui, mais
Fantôme
alors...
Revol, et puis
Oui, on peut dire Mamie
Puzzle
Geek.
Dog, il y avait du monde. Il y avait vraiment du monde.
Mamie Geek qui est une dame
Connu Unix, ouais.
elle a connu Linux au tout début, genre en
Tout début, ouais.
1993 ou 94, quoi, en fait. Voilà.
Ouais.
Ça, c'est énorme.
Ça, c'est énorme. Et du coup, elle était au bon endroit.
Ouais. Et donc elle était avec nous, effectivement. Tu disais alors les autres?
Tu me demandes de refaire tous les pseudos, là, c'est compliqué.
Non, pas tous,
Mais.
mais quelques-uns et que tu as pu découvrir à l'occasion, dont tu te rappelles, avec qui tu es resté en relation depuis.
Il y avait Jean-F, du coup, qui est venu. Mais je crois qu'il était devenu un RMF7. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Il y avait tellement de monde.
Il y avait
Ouais,
Squid.
cette année, on était quasiment 30 ou 35 dans les journées techniques. Hein.
Ouais, pas loin, ouais,
Donc,
tout à
ça
fait.
faisait une grande salle de remplie, quand même.
Ouais, on était pas loin de 40, pas loin de 40, fait qu'il y a un peu moins de 40, sans doute, informaticiens, ce qui est une grosse densité, parce que les informaticiens ne courent pas les rues, hein, il y en a pas forcément tous les coins de rue. Donc oui, c'était des journées de travail très denses. Alors, effectivement, tu n'es resté que ces 2 jours-là. T'as pas souhaité rester pour le week-end puisque c'était effectivement pas technique. Mais par contre, tu te prépares déjà pour les RML 9.
Oui, c'est au Havre. Donc là, je suis en train de regarder quel week-end ça va être. Et puis je me prépare. Hein. J'aimerais bien pouvoir venir présenter Saga, la nouvelle monture,
Ouais.
histoire de présenter ça aux développeurs. Et puis voilà.
D'accord. On poursuit avec l'arrivée de Gtest. Alors ça veut dire que évidemment, quand on développe un logiciel comme d'unitaire et qu'il est opérationnel, ce qui est déjà le cas, on continue de le tester forcément avec des monnaies de test. Alors on l'a déjà fait avec plusieurs monnaies de test préalables. Hein. Je ne sais plus d'ailleurs combien ça va faire maintenant, mais on a laissé tomber TestNet et on est passé à Gtest.
C'est ça. Donc, Gtest, c'est un réseau qui a pour objectif de tester la toile de confiance, là où TestNet était plus tester le réseau technique. Et du coup, on a fait une toute petite toile de 400 personnes, et puis on a eu des grosses contraintes quand même pour rentrer, hein, puisque il faut 3 signatures, elle expire en 1 semaine, et la distance maximum entre 3 membres et 2 3 pas. Donc forcément c'est difficile, d'ailleurs on voit les membres qui sont motivés, ils réessayent 2 3 fois de suite avant de réussir à rentrer parfois. Mais ils restent, hein, ils sont motivés, ils continuent. Et puis ben, je crois qu'on a atteint les 50 membres aujourd'hui. Donc
Ah, donc là, oui, tu veux dire au moment où on parle, alors que ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'une semaine que c'est lancé, c'est ça?
ça fait ouais 20 jours à peu près.
20 jours, tant que ça? Non, c'est pas plutôt 2 semaines ou quelque chose comme ça? Enfin, je sais pas. D'accord, donc une vingtaine de jours, il y a 50 membres qui ont réussi à rentrer. Hein, il y en a plein qui attendent, notamment, c'est ça, hein?
Je crois qu'il y a 90 personnes qui étaient encore en attente, enfin, qui étaient en attente la semaine dernière,
Ah
donc
oui.
on a dû en faire rentrer pas mal là quand même, mais oui, ça prend son temps. Après, ça prend aussi son temps parce qu'il faut que les gens soient actifs, une fois qu'ils deviennent membres, il faut qu'ils certifient à leur tour pour faire rentrer les suivants.
Ah oui.
Donc voilà, il faut être actif pour faire grandir la toile, hein. Ça, elle va pas s'agrandir toute seule.
Alors, est-ce que tu peux nous rappeler? Alors pourquoi? Parce que les premiers, finalement, peut-être parce que, alors, les premiers rentrants, ils ont déjà épuisé leur signature, c'est ça? Parce que le nombre de signatures par personne est limité.
Donc je sais que par exemple Jean-F il a atteint son stock maximum de signatures. Alors moi j'en ai gardé en stock pour faire parce que je les garde pour avoir du mou pour faire rentrer les gens qui ont vraiment beaucoup de mal. Mais oui, en fait avec 15 signatures maximum par personne, on arrive très vite au stock à épuiser son stock, quoi.
Alors, comment tu disais que c'est une toile de 400 personnes? Mais comment on peut être sûr que la toile dépassera pas 400 personnes? Pourquoi tu dis que c'est 400 et pas 6 000?
Parce que mathématiquement, si chacun peut mettre au maximum 15 liens et qu'il y a 3 pas entre tout le monde et qu'il faut 3 liens pour rentrer, j'ai pas la formule en tête, mais la formule appliquée donne une taille max de 400 personnes. Donc après, c'est un max théorique, hein, on n'a pas de garantie de l'atteindre. c'est même probable qu'on ralentisse autour de peut-être 50% de la toile. Bon, on va voir. Mais voilà, le maximum physique absolu, ce sera 400 personnes dans la toile.
Voilà, on sait déjà qu'on a une borne supérieure qui est 400, mais peut-être même que c'est moins, parce que ça dépend de contraintes qui n'ont pas toutes été forcément calculées, parce que c'est en fait on se rend compte que un graphe c'est un objet complexe en fait. Hein.
Ah bah oui, puisque en fait, je sais pas si on peut qualifier ça d'un objet multiple dimension, mais ouais, c'est vrai qu'ils parlent souvent de sphère pour parler du graphe. C'est vrai que c'est assez explicite, mais ça va dans tous les sens quoi. C'est pas comme si on regardait quelque chose qui était plat comme une surface, ça va partout quoi. Donc pour bien analyser, c'est pas évident. Donc on expérimente, on a des bornes, on essaye de borner les résultats possibles et puis on regarde quoi, on valide ce qu'on théorise.
Alors pour l'arrivée de alors je disais ça fait c'est quel numéro de monnaie, enfin ça fait combien de monnaies en fait qui ont été lancées avec Unitaire jusqu'à présent, des monnaies de test, c'est la combien tienne?
On a eu comment il s'appelait? Beta net, je crois, ou je sais plus quoi.
Ouais, Beta Brosouf. Ouais.
Beta Brosouf, c'est ça. Après, on a eu Meta Brosouf,
ouais.
Puis Testnet, puis Gtest. Donc, ça fait la quatrième.
C'est la quatrième, en fait, donc on peut dire que c'est la quatrième. Alors, on va dire la cinquième monnaie libre qui voit le jour dans le monde, puisque
voilà.
On va dire que la première, ça a été Merom avec MoneyM.
Exactement.
Hein, voilà, parce que même si MoneyM est centralisé, bon, il n'a pas toutes les caractéristiques sans doute efficaces, n'empêche que il avait bon, le code était proche, alors pas tout à fait exactement idéal, mais assez proche en tout cas d'une monnaie libre correctement établie. Bref, donc alors comment dirais-je? Oui, alors donc Gtest. Alors quelle est aussi la différence? Parce que on a vu que apparemment, si j'ai bien suivi. Parce que moi je suis ça de loin, tu sais, je me connecte une fois tous les 6 mois à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec Gtest? Puisque d'Unitaire est passé d'un coup de la version 0.30 à la version 0.90. Donc il y a eu un gros saut là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, alors sur la fin de Testnet, on a fait avancer les versions très vite, puisque on savait ce qu'on voulait comme statut du code pour Gtest. Donc en fait, on a fait évoluer le code petit à petit pour cibler le 0.9, le 0.90. Et en fait, ce code-là, c'est un code qui a plusieurs caractéristiques. Donc la première, c'est d'avoir une base de données qui contient seulement le statut actuel de la monnaie. Là où avant, on pouvait stocker des éléments qui étaient historiques, maintenant la base de données, en fait, elle va élaguer toutes les choses qui sont dans le passé pour avoir juste un instant T de la monnaie. Mmh. À côté de ça, Unitaire a été modularisé. Donc ça veut dire qu'il est maintenant très simple en fait de développer une nouvelle fonctionnalité pour les nœuds. Alors par exemple là, il y avait Grizzly qui nous avait proposé d'utiliser Neo4j pour tester les graphes de la toile de confiance, pour les analyser, etc. Et du coup, j'ai profité de cette modularisation pour développer un tout petit module Neo4j qui est vraiment très simple à utiliser.
Alors tu dis Neo4j, c'est-à-dire Neo4j, hein, ça c'est ça se dit en français.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce Neo 4J là?
C'est Neo Forge Java, je pense que ça veut dire ça.
Oui, mais qu'est-ce que. Alors il fait quoi ce. Qu'est-ce qu'il fait ce. C'est quoi? C'est un programme?
Donc, en fait, c'est une base de données qu'on a dit, on dit base de données de graphes.
De graphes, d'accord.
Donc en fait, à la différence des bases de données SQL ou des bases de données relationnelles, ou etc., là ce qu'on va avoir dans la base de données, ça va être des nœuds et des liens entre les deux en fait. Donc vraiment des graphes. Et ça, derrière, ils stockent ça de manière optimisée et optimale pour faire très vite des analyses de chemin, des analyses de graphes si il est convexe, des choses comme ça.
Ouais.
Et donc voilà, c'est une base de données de graphes qui permet de faire très rapidement des requêtes sur la toile de confiance.
Mm-hmm.
Et donc voilà, donc en fait, grâce au mode modularisé de l'unitaire, Grizzly a pris en main en fait le petit module que j'avais fait et il ajoute maintenant lui-même des fonctions dans cette API. Et donc à terme, quand on aura pas mal de fonctions, je pense qu'on va les intégrer aux nœuds pour pouvoir les utiliser dans les clients. Donc afficher par exemple des suggestions de membres à signer. Ça peut être par exemple quelqu'un qui aurait signé un ami, peut-être qu'on le connaît. Donc dans ce cas, le client pourrait nous suggérer de certifier cette personne pour renforcer la toile de confiance.
D'accord, oui, d'accord. Et puis aussi avoir une vue de manière plus générale sur la toile aussi en termes de vérification, parce que chaque membre de la toile est un vérificateur potentiel de la validité de tous les autres membres. En fait, il n'y a pas de centre de contrôle. Chacun est potentiellement centre de vérification.
Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que ça responsabilise, quoi. Il faut aller vérifier qui on signe pour que. Faut vérifier que la toile se comporte bien, etc. Donc voilà, c'est vrai que donc c'est pas faisable comme ça sans outils. Donc NeoForgy va nous permettre de développer des vues de la toile de confiance qui nous permettent de l'analyser, donc de savoir s'il y a des groupes de personnes qui se certifient beaucoup, de savoir qui est la personne la plus éloignée de nous, ou alors qui sont les gens les plus proches de nous qu'on peut certifier à coup sûr, des choses comme ça, quoi.
Voilà, en tout cas, voilà, qu'on peut aller vérifier. Voilà, en tout cas, il vaut mieux signer en général, de toute façon, des gens qu'on connaît véritablement bien,
Tout à
dans
fait.
l'idéal. Alors là, comme on est en test, c'est moins grave. Ici, on signe un peu des gens qu'on ne connaît pas forcément bien, mais il faut éviter, bien sûr, de signer comme ça n'importe qui, puisque ça joue énormément sur la validité ensuite, bien sûr, de la toile et donc derrière de la monnaie qui va être établie dessus. Alors. D'accord, donc ça c'est pour GT. Je crois que tu as bien résumé ce passage à d'unitaire 0,90, le fait que c'était limité à 400, qu'on est déjà à 50 membres après un peu plus de 2 semaines. Tu disais 20 jours, bon, j'ai pas la date exacte en tête, mais il me semblait que c'était même plus court que ça. Mais bon, bref. Et alors, donc, sur toujours cette monnaie GTest, et on va ensuite pouvoir parler de Sakia aussi, bien sûr. Qu'est-ce qui caractérise finalement ici la difficulté que les membres ont à rentrer? Alors, tu as donné quelques pistes à l'heure, mais est-ce que tu pourrais résumer les points qui rendent l'opération justement beaucoup plus délicate que ça ne l'était dans TestNet?
Alors déjà, il y a la distance, hein. La distance de 3, c'est vrai qu'on se rend compte que la distance joue vraiment très fortement pour l'entrée des membres. On a vu aussi que grâce à GTS, on a pu voir la formation de palier, en fait, puisque enfin, tous les membres ne sont pas testés, on va tester uniquement ce qu'on appelle des sentinelles. Ce sont les membres qui ont émis un certain nombre de certifications et qui en ont reçu un certain nombre. Donc en gros, c'est des nœuds qui sont un peu majeurs dans la toile, et c'est depuis ces nœuds-là qu'on va faire les tests de distance. Et en fait, comme le nombre de certifications qui est requis pour devenir sentinelle change en fonction du nombre de membres dans la toile, eh bien ça va créer des paliers où d'un seul coup plein de membres vont devenir sentinelles ou l'inverse, et ça va être plus ou moins difficile pour rentrer dans la toile à ce moment-là.
Alors c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire effectivement quand on les nombres de
Oui,
montants.
quand on passe un palier, il y a moins de
Voilà.
sentinelles et donc c'est plus difficile
Voilà. C'est-à-dire quand on
de
passe un
toucher
pa...
90% des sentinelles.
Ouais, c'est ça. Quand on passe un palier, c'est-à-dire de nombre de membres, effectivement, la condition pour devenir sentinelle augmente, c'est-à-dire qu'il faut certifier plus de membres et être certifié aussi, puisque maintenant c'est symétrisé aussi, hein, donc il faut double sens. Par exemple, imaginons qu'à 20 membres, il suffit d'avoir émis et reçu 3 signatures. Eh bien, peut-être qu'en passant à 28 membres, d'un coup, par un procédé de calcul, eh bien, c'est plus 4, c'est 5. Il faut avoir signé 5 personnes et être signé par 5 pour devenir un point de contrôle. Et donc, du coup, si plus il y a de points de contrôle, plus ça rend la toile facile d'entrée. Parce qu'évidemment, moins il y en a, plus les distances entre les membres sont fortes. Voilà, donc ça oblige les gens à bien, finalement, c'est pour ça que, donc, du coup, ça augmente finalement ça augmente le niveau global de contrôle dans la toile. Plus il y a de membres, plus il faut que le contrôle augmente. Alors il n'augmente pas non plus de manière exponentielle, il augmente un peu, mais suffisamment pour exiger des membres d'avoir plus de vérifications entre eux pour passer à des étages de membres, à une quantité d'utilisateurs supérieure. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc ça, c'est une condition très très restrictive aussi, qui voilà. Ça oblige aussi, et donc du coup, à vraiment signer les gens qu'on connaît. Parce que si on les signe pas, eh bien, non seulement on se prive soi-même de pouvoir être un point de contrôle, mais on les prive aussi eux de pouvoir l'être. Hein.
Exactement. Donc d'où l'intérêt de pas certifier que des nouveaux, mais en fait il faut aussi certifier les gens dont on est proche, qu'on connaît réellement pour les valider en tant que point de confiance de la toile, quoi.
Ouais, et de manière à limiter notre distance à l'ensemble des membres de la toile. En fait, il faut que la toile soit bien bien reliée finalement
C'est ça.
pour qu'on puisse l'étendre. Voilà, c'est-à-dire en gros d'ailleurs si un pas est de 3, ben, il faudrait que tous les membres soient à 2 de distance pour que ça marche bien quoi. Comme ça
Oui, c'est ça.
s'ils sont tous à 2 ou que 90% des gens sont à 2 de distance les uns des autres, eh bien ils peuvent tous signer un membre nouveau puisqu'ils ont les conditions requises pour que ça puisse fonctionner, quoi. D'accord, voilà, donc je pense que ce point est important et je crois qu'on les a bien résumés. Alors, bah écoute, on va commencer à parler, et peut-être on le fera en deux parties, puisque on arrive quand même déjà proche de la fin de notre première partie, mais on va arriver donc à Sake. Alors du coup, cette modification d'unitaire, de ce passage à 0,90, a obligé les clients à s'améliorer aussi.
Oui, donc les documents en fait sont montés en version. Il y a eu plusieurs petites modifications dans le protocole, mais qu'il a fallu prendre en compte, notamment des éléments d'anti-spam sur les nœuds, des éléments d'allègement des transactions pour s'assurer qu'elles pèsent pas trop lourd dans les blocs. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Il y a eu beaucoup de petites évolutions comme ça qui a fait que les clients ont dû être mis à jour. En parallèle, ça faisait quand même déjà 6 mois que j'avais commencé à retravailler Sake pour le rendre plus robuste aux évolutions du code, le rendre plus robuste aux erreurs, etc. Et donc ça s'est assez bien synchronisé, puisqu'au moment où l'unitaire 0.90 est sorti, moi j'avais terminé Sake à une semaine près. En tout cas, la 0.30 était prête à être sortie.
Oui, d'accord.
Donc voilà. Donc en fait, dans les modifications de la 0.30, il y a eu des éléments qui manquaient à la 0.20 qui permettaient de rendre Sake plus résistant aux attaques. Notamment, dans la 0.20, on scannait déjà le réseau pour découvrir un nombre de nœuds assez large. Et maintenant, sauf qu'en fait, quand on faisait une requête, on requêtait un seul nœud, puis on lui faisait confiance, quoi. Maintenant, ça a changé ce comportement. Quand on fait une requête, on va valider le résultat auprès de plusieurs nœuds. Donc en fait, on va sonder le réseau, quoi. On va dire, si je vous demande ça, qu'est-ce que vous me répondez ? Il faut que les nœuds répondent en majorité une certaine réponse pour considérer cette réponse valide.
D'accord, oui, donc ça, du coup, ça renforce la fiabilité des données en fait que traite Sake, c'est ça, hein ?
C'est ça, exactement.
Voilà. Parce qu'évidemment, si on se branche sur un seul nœud, ça pourrait être un nœud qui a fait un fork, par exemple, et donc les données qu'on recevrait ne seraient pas correctes.
Voilà, ça peut être un fork, ça peut être un nœud qui a des bugs, donc qui nous enverrait, qui se tromperait dans ses réponses, ça pourrait être quelqu'un qui essaye de mentir au réseau en faisant un nœud qui ment. Ou, voilà, donc il y a pas mal de possibilités, donc en fait c'est une manière très simple de s'assurer que, enfin, tant que le réseau reste majoritairement honnête, et a priori les gens qui veulent faire tourner leur monnaie vont faire tourner un réseau honnête, et ben, les clients auront des réponses qui seront valides.
Oui, d'accord, ça se comprend tout à fait. Alors, écoute, on va s'arrêter là pour l'instant. On va revenir après sur Sake dans la deuxième partie. Et on finit cette première partie avec une pause musicale. Alors, est-ce que tu sais comment sont les musiques sur Monnaie Libre, Enzo ?
Elles sont toujours libres, les musiques.
Voilà, elles sont toujours libres sur Monnaie Libre, effectivement. Donc, pause sur Monnaie Libre. On se retrouve juste après avec Enzo pour continuer à parler de Sake. On parlera ensuite de son super blog avec, vous allez voir, des posts super intéressants, très intéressants, je trouve, sur l'économie, la théorie relative à la monnaie, les monnaies libres, avec un point de vue très très poussé. On fera quelques résumés de ces posts, vous allez voir. Et puis on conclura sur l'RML9 aussi, puisqu'il faut commencer à en parler. C'est prévu pour le mois de juin. Alors, une pause et à tout de suite sur Monnaie. We'll be right back. Voici de retour hein, sur Monnaie Libre après cette pause musicale, toujours avec Inso, développeur Saka. On a vu dans la première partie un petit bilan des RML8. Il nous a parlé donc de G-Test, on a vu des points importants dans cette monnaie qui donc a mis l'accent sur la toile de confiance. Et puis donc la nouvelle version de Saka qui a dû s'adapter puisque G-Test est passé sur un protocole d'unitaire 0.90. Donc il a fallu que Saka évolue. Alors tu disais que maintenant il va requêter, juste avant la pause, il va requêter plusieurs nœuds pour vérifier que les données sont bien les mêmes sur plusieurs nœuds, ce qui donc du coup renforce bien sûr la stabilité et la pertinence et la crédibilité disons des données gérées par Saka sur l'ensemble du réseau, puisque ces données sont partagées, bon très bien. Il y a sans doute d'autres évolutions, tu vas nous le dire aussi, mais alors je crois aussi qu'on peut aussi mettre l'accent sur le fait que le graphisme de Saka a évolué, c'est-à-dire le visu, le rendu. Hein.
Oui, bah alors, j'ai pas mal fait d'essais dans Saka, je sais pas si tu te rappelles de la 0.10, À l'époque, il y avait des onglets dans tous les sens.
Ouais, c'était pénible.
C'était un peu l'horreur.
Oui.
Après, j'avais essayé un mode avec des tuiles, mais bon, pareil, ça marchait pas très bien. Et pour finir, en fait, l'autre jour, j'avais relancé Thunderbird et je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut. C'est un arbre à gauche qui représente toutes les informations qu'on peut voir, et puis au milieu, l'écran de l'information courante. Et donc, c'est ce que j'ai mis en place dans la 030. Et ça a quand même pas mal amélioré, je pense, l'utilisabilité de Saga.
Ouais.
Puisque maintenant, on voit tout de suite ce qu'on cherche. À gauche, on a l'arbre avec marqué le réseau, on a si on veut rechercher des identités, on a notre historique de transactions, et puis quand on clique dessus, on peut aller voir dans le détail qu'est-ce qu'il y a.
Et puis alors, je crois aussi qu'il y a un point important, bon, c'est lié aussi à Dunitaire, mais à Sakya aussi, c'est qu'il n'y aura plus des terras. des Terra Test Net ou je ne sais quoi avec des unités complètement loufoques hein, qui étaient.
Oui, en fait, alors, comme dans Unitaire, la monnaie quantitativement est créée de manière exponentielle. Bon, sur 20 ans, ça va commencer à se voir et en fait, les unités augmentent. Donc, on va faire. Au début, on va créer des DU qui valent 1000 et puis au bout de 50 ans, on aura des DU qui valeront 1 million. Et donc, pour afficher les unités quantitatives, on était parti sur la 020 pour afficher ça sous une forme entre guillemets scientifique, où on avait mis des gigas, puis des teras unités.
Ouais.
Bon, c'était pas forcément très lisible. À la fin, on n'en prenait plus grand chose à la fin de testnet quand on avait créé 320 ans de monnaie. Les chiffres étaient un peu incompréhensibles. Donc, sur tes conseils, on a quand même complètement changé d'approche puisque sur la 030. Maintenant, en fait, comme il y a la base d'Unitaire fait tourner une base, donc des chiffres. Donc, par exemple, comme quand on passe des anciens francs aux nouveaux francs, on fait du divisé par 100. Et là, c'est pareil. Donc, la base augmente, mais les chiffres, eux, restent stables. Donc, alors, si je devais te donner un exemple, on aurait, pour commencer, on aurait 5 unités fois 10 exposant 0 quand la base est à 0, et puis 50 ans plus tard, on aurait 5 unités fois 10 exposant 3 avec une base de 3. Et donc, chacun va afficher en fait la base courante, mais les unités resteront toujours à une échelle qui restera lisible, c'est-à-dire qu'on sera toujours entre 1 et 1 million.
Oui, alors sachant qu'en fait, en plus, il y a eu un déplacement de virgule, ce qui fait qu'au lieu d'afficher. 10 000,
oui,
on va afficher,
oui,
afficher 10,00, quoi, en fait, hein, c'est ça. Hein.
Voilà. Oui, en fait, maintenant, on considère que l'unité la plus petite est un centime, mais c'est plus juste une unité. Et donc, le 1 vaut 1 centime.
Voilà. Bon, c'est que de l'affichage.
Oui, on est deux chiffres après la virgule.
Voilà, c'est que l'affichage, mais on se rend compte au final que dans une monolithe, finalement, il n'y a pas tant de chiffres que ça, et que, en fait, même le nombre de chiffres, il sera toujours borné, même en quantitatif.
C'est ça, exactement. En fait, même en quantitatif, on voit que la monnaie tourne. C'est ça qui est assez marrant.
Voilà, elle tourne dans que ce soit en quantitatif ou en relatif, c'est une question, là encore une fois, de référentiel et d'habitude. Alors, donc on a vu cet affichage, on a vu... ah oui, alors il y a aussi une amélioration que j'ai trouvée quand même sympa et importante, à mon avis, c'est que toutes les opérations importantes, que ce soit les certifications ou les transactions, maintenant nécessitent la signature.
Hein. Oui. Oui, c'est vrai qu'avant, on avait le mot de passe qu'on pouvait entrer et on pouvait cocher la case pour s'en rappeler.
Ouais.
Donc ça faisait en fait que parfois les utilisateurs ne se rappellent même plus de leur mot de passe. Donc c'est un peu gênant puisque après ils ont leur identité qui est sur le réseau et ils ne peuvent plus s'en servir. Donc voilà, donc en fait on a préféré les forcer à se rappeler de leur mot de passe et leur réécrire pour les aider à s'en rappeler. Voilà, bon après il y aura sûrement des fonctionnalités améliorées là-dessus parce que faut très bien envisager que l'utilisateur tape son mot de passe une première fois puis entre un code PIN pour le retenir plus facilement, ou des choses comme ça. Bon, là, on verra en fonction des retours utilisateurs quand on sera un peu plus loin dans la production. Quoi.
Oui, mais ça, c'est pas forcément aux développeurs initiaux de le faire. Ça, c'est des applis. Après, on peut toujours imaginer des applications qui simplifient.
Oui, voilà.
Mais
ce sur quoi on souhaitait mettre l'accent en mettant cette fonctionnalité, c'était surtout dire aux utilisateurs ce mot de passe il est extrêmement important. C'est comme une clé pour rentrer chez vous. Donc, il faut.
C'est même plus parce que...
Voilà, c'est toute votre identité qui est traversée ouais. Ce mot de passe, donc il ne faut pas le laisser traîner. Il ne faut pas l'oublier.
Oui, bah, c'est surtout c'est la clé du coffre, et si quelqu'un ouvre le coffre, il peut partir avec tout ce qu'il y a dedans, et puis on le retrouve pas.
Donc, exactement.
C'est surtout ça le souci. D'accord, donc alors, Ok, donc ça c'était sur la partie Sakia. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein, de cette nouvelle version. Après, le mieux, bien sûr, le mieux c'est de le tester au final, hein, si on veut vraiment voir tout ce qu'on peut faire avec. Il vaut mieux aller le tester directement.
Maintenant c'est aussi beaucoup plus simple d'ailleurs à utiliser Sakia pour tester la monnaie, puisque Sakia est branché par défaut sur la monnaie de production. Donc aujourd'hui si je les teste, quand il y aura une monnaie de production, ce sera la monnaie de prod. Alors qu'avant il fallait aller chercher l'adresse d'un nœud pour l'entrer et se connecter, et automatiquement Sakia découvrait la monnaie qui était derrière. Là maintenant Sakia est branché sur une monnaie par défaut. Et après on peut le brancher sur plusieurs monnaies, mais c'est plus pour les utilisateurs expérimentés qui savent utiliser la ligne de commande.
Très bien. Donc alors, on va maintenant parler de ton activité, je dirais, d'écrivain, hein, on va dire ça, de blogueur en tout cas, voilà. Donc tu t'es mis finalement à écrire des posts sur ton blog sur la monnaie, sur l'économie, sur la TRM, sur la monnaie libre, et voilà, qui sont je trouve, d'excellentes factures. Alors, je crois que donc il faut en parler, parce que c'est des posts qui méritent tous d'être lus. C'est un point de vue, c'est un point de vue tout à fait pertinent sur la TRM qui n'avait pas forcément été dit de cette façon-là au préalable. Donc ça vaut le coup. Alors on va commencer par, rappeler l'adresse de ton blog. Alors vas-y, tu vas nous la dire tout simplement.
Donc l'adresse c'est blog.inso.ovh.
Voilà, .ovh. Alors il y a un flux RSS, mais tu les as aussi publiés sur Diaspora. Peut-être sur d'autres sites de réseaux sociaux. Alors, donc, on va commencer par le plus ancien, le numéro 4 dans ma liste là devant moi, c'est le plus ancien. Ils sont triés, je crois que le numéro 1, oui, c'est le plus récent. Donc là, alors, le plus ancien, c'est... Alors, il y en a un encore plus ancien, mais il parle que de logiciel, il parle pas vraiment d'économie. Donc alors, le 4, c'était la génération Y sacrifiée dans les pays riches. Alors, qu'est-ce que tu as voulu dire dans ce post-là?
En fait, je suis tombé sur un article qui était publié sur un journal sur Internet qui titrait « La génération Y sacrifiée dans les pays riches ». Et en fait, quand on lit cet article, on a l'impression que c'est un peu comme le sort, quoi. C'est pas de chance, c'est tombé sur la génération Y, quoi. Bon, c'est comme ça, tant pis pour eux.
Tant pis pour eux.
Et puis bon, ça survole des problèmes, quoi. Ça essaye en fait d'appliquer les vieilles solutions à cette génération qui est très... qui n'est pas la même génération que la génération précédente et qui, du coup, forcément, voit les choses de manière tout à fait différente. Et donc, en fait, dans ce poste, j'ai essayé un peu de mettre en valeur le fait que si aujourd'hui, les jeunes, la génération Y, avaient autant de mal dans l'économie, il fallait peut-être jeter un œil à la manière dont on créait les chiffres qui nous servaient de monnaie, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette génération avait autant de droits de créer des chiffres que les précédents? Et du coup, est-ce qu'avec cette création de chiffres qui n'est pas équitable, est-ce que du coup, c'est pas les précédents qui vont dire qu'est-ce qui est d'une valeur et qu'est-ce qui n'est pas une valeur pour les jeunes?
Oui.
Et donc voilà, quand on lit l'article, en fait, on parle par exemple du poids croissant de la dette, on parle du chômage, et puis on parle de la hausse des prix de l'immobilier, et en fait, tout ça, c'est quand même lié à la monnaie, quoi. Ouais. L'immobilier, si les prix montent, quand on lit ton blog, on commence à comprendre, et puis quand on analyse la TRM, on comprend encore mieux que s'ils montent, c'est pas un hasard, les chiffres, ils se sont peut-être concentrés là où il y avait des choses à faire monter en valeur de manière un peu fictive, quoi. Et voilà, bah, après, le poids de la dette, l'article qui se plaignait, disait qu'il faut rembourser, il faut que l'État dépense moins, etc. Sans se poser la question de qu'est-ce qui se passe si l'État dépense moins, hein, c'est pas encore complètement compris que la monnaie c'est en grande partie la dette des États, et qui dit rembourser la dette dit probablement déflation, et ce sera pas forcément mieux le cycle qui va suivre. Et puis ouais, donc, en gros, il y a trois points, quoi, le chômage, le poids croissant de la dette et la hausse des prix de l'immobilier qui sont énoncés dans cet article. Et en fait, si on va plus loin que ça, si on regarde le chômage, le poids croissant de la dette et la hausse des prix de l'immobilier, eh bien, on voit que c'est forcément lié à la forme de la monnaie qu'on utilise dans la vie de tous les jours, la monnaie nette.
Voilà, donc tu as voulu, en fait, finalement, tu as voulu réagir sur un article qui ne faisait que, effectivement, que faire un constat pour dire, mais c'est bien de faire des constats, mais vous n'avez pas analysé la raison.
C'est ça, exactement. On constate tous que la dette augmente, on constate tous que qu'il y a une hausse des prix de l'immobilier, etc. Mais en même temps, si on ne se demande pas pourquoi c'est comme ça, et si on se dit juste, ben mince, l'ironie du sort, c'est pas comme si l'économie était en plus organisée par des humains.
Ouais, donc tu es en train de dire que si la génération Y est sacrifiée, c'est pas un hasard et que c'était presque inéluctable en fait finalement.
Bon, en tout cas, c'est inévitable dans la forme monétaire qu'on utilise tous les jours.
Voilà, c'est inéluctable dans la forme
Et
monétaire
c'est
qu'on
cyclique,
utilise.
puisqu'en fait, il y aurait sûrement une génération, avec cette monnaie, il y aurait sûrement une génération dans 30 ou 40 ans qui, elle, s'en sortirait très bien, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est chacun, faut tomber au bon moment, quoi, pas de chance.
Faut naître au bon moment, donc en fait.
Exactement.
Il y a tant pis, donc finalement c'est la faute de celui qui naît. Il avait qu'à choisir une
Bah oui,
meilleure.
voilà, pourquoi il est né aujourd'hui? Il pouvait pas attendre 20 ans avant de naître, hein,
Voilà,
on est
donc c'est
vraiment.
donc faut voir les choses comme ça, donc.
Ah
Donc je crois que c'est assez clair, donc ça vaut le coup, allez voir ce post. La génération Y sacrifie les pays riches par INSO et non pas donc par d'autres journaux qui ne font que se le déplorer en disant apparemment que c'est la faute à pas de chance. Et non, il y a peut-être des raisons qui ne sont pas analysées. Bon, en tout cas, INSO, il apporte sa réponse et moi, ça m'a semblé assez pertinent. Alors, même plus que pertinent, on va dire le poste suivant, qui est très bien aussi. Alors, c'est au commencement était le début.
Ouais, alors ça c'était par rapport au forum, sur le forum de Dignitaire. Mais il y avait eu une discussion sur comment expliquer la TRM, et les gens trouvaient ça vachement compliqué la TRM, alors que, en fait, une fois qu'on l'a pigé, il n'y a vraiment pas grand-chose à comprendre, à part que c'est une création d'unité qui est symétrique dans le temps, et ça fait le travail. Et en fait, j'ai essayé de faire comprendre comment on peut arriver à ce raisonnement de manière très simple, genre pourquoi il faut créer ces unités de manière symétrique. Et donc j'ai pris le fameux parallèle avec une petite communauté d'humains qui décide de se mettre à faire une économie et à échanger. Et donc comment ils s'organisent? Et donc c'est un petit conte en fait qui raconte des humains qui vont créer leur propre monnaie et qui vont se rendre compte au fur et à mesure des années des défauts de leur monnaie et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'améliorer.
Ouais, et donc ils vont arriver à la solution.
À la fin, la solution, ils vont s'en rendre compte, c'est le début, quoi. Créer la monnaie sous forme d'un dividende universel qui est proportionnel au stock total de monnaie accumulé au fil des années et qui est réparti entre tous les êtres vivants.
Voilà, donc ça c'était au commencement était le début, donc c'est finalement donc on peut dire c'est un éclairage sur le raisonnement qui permet d'approcher
D'aboutir, voilà,
d'aboutir
d'approcher la
à
TRM, d'essayer de comprendre
voilà, d'aboutir à ouais.
Pourquoi on va trouver la TRM pertinente.
Voilà, donc c'est un poste presque philosophique, on va dire. En tout cas théorique, qui approche une solution théorique. C'est pas un poste avec que des il n'y a pas de calcul
Ah oui, ça
poussé, mais.
c'est souvent, on parle de la TRM, on parle que de calcul, de quantitatif, de relatif, de division, etc. Alors qu'en fait, on peut juste la raconter, la TRM, ça se raconte très bien, et ça permet d'avoir une première compréhension qui est tout à fait acceptable, quoi.
Voilà, au commencement était le DU. Voilà, un très très bon poste aussi. Ils sont vraiment tous vraiment bien. Hein. Alors là, c'est vrai que. Après, il y en a un autre alors qui fait écho à un sujet qui a été traité aussi préalablement, mais ici qui a été réécrit, réinterprété. Moi, ça me rappelle des postes antérieurs que j'ai pu faire en 2009 ou 2010 ou 2011 et qui n'ont jamais été retraités depuis. Et je crois que tu es le seul à l'avoir mis en tout cas sur un post sur Internet. Donc à ta sauce à toi. Et il s'appelle ce post qui est donc vraiment très important à mon sens puisque ça éclaire voilà un parallèle qu'on peut faire assez profond. Il s'appelle donc de la neutralité du net à la neutralité de la monnaie. Alors là, qu'est-ce que tu as voulu faire dans ce poste-là? C'est quoi alors avant?
En fait, j'étais en train de lire un article sur la neutralité du net, et puis j'étais en train de penser à la neutralité du net et à me dire, puis je sais pas vraiment ça m'a fait tilt aussi, mais en fait, la monnaie libre, c'est exactement le même principe, c'est un objet neutre qui nous sert à échanger plus facilement. Et donc, dans la neutralité, en fait, j'essaie d'éveiller les gens à la problématique de la monnaie et les gens qui sont aujourd'hui éveillés à la problématique de la neutralité du net. C'est-à-dire qu'on a beaucoup aujourd'hui de techniciens qui savent pourquoi les logiciels libres, pourquoi Internet neutre, etc. Et donc là, dans cet article, j'ai voulu mettre en valeur le fait que la monnaie libre était en fait très proche, voire c'était vraiment le même d'égalité entre tous, quoi. De façon à garantir notre liberté à chacun. Et donc voilà, donc en fait, je fais dans cet article, je fais surtout des parallèles entre la neutralité du net et la monnaie, donc comment une neutralité du net, si elle n'est pas respectée, permet de contrôler les choses, et comment la monnaie permet de faire de la même manière si elle n'est pas créée de manière symétrique. Ou pourquoi, alors que la neutralité du net n'est pas respectée, on peut censurer des individus. Et bien avec la monnaie aussi, on peut le faire, hein, il suffit d'arrêter de les financer. On peut aussi parler du fait que la neutralité du net, si elle n'est pas respectée, par exemple, il va y avoir des petites entreprises, des startups qui vont vouloir démarrer, puis pour elles, l'accès à Internet serait plus cher, donc elles ne pourraient pas démarrer, ou alors il faudrait payer un droit de passage plus élevé. Et bien en fait, avec la monnaie, c'est pareil, puisqu'en fait, quand on n'a pas beaucoup de monnaie, quand on commence, faut payer plus cher que les autres.
Oui.
Et donc voilà, en fait, c'est un parallèle pour essayer d'éveiller des gens qui sont plus techniques aux problèmes économiques et à la monnaie, quoi.
Voilà, donc un post vraiment très intéressant qui s'adresse aux spécialistes des réseaux aussi, peut-être aux informaticiens, pour comprendre le sujet par donc la neutralité, le parallèle entre neutralité du net et neutralité de la monnaie. La neutralité du net, c'est pas un sujet que tout le monde comprend. Hein, même chez les informaticiens, il y en a peu qui sont sensibles à ça.
Ah oui, il y a même, on peut même en voir, d'ailleurs, on voit bien la relativité des valeurs, puisqu'il y a même des informaticiens qui vont dire que la neutralité du net, ça sert à rien et que, au contraire. Il faut faire payer à chacun d'accès différent.
Oui, oui, voilà. Donc, et là, on retrouve effectivement... Donc, si on veut un Internet neutre, ça veut dire que peut-être qu'il faudrait se le bâtir et l'utiliser et ne pas aller jouer dans l'Internet qui ne l'est pas.
Oui, ça c'est sûr. Mais en fait, d'ailleurs, on peut même se demander est-ce que l'Internet est vraiment neutre alors qu'il est construit sur une monnaie qui ne l'est pas. Et
oui.
Puis quand on regarde ça, on s'étonne pas que les GAFAM, etc., deviennent si gros dans Internet et que l'Internet se centralise de plus en plus, en fait.
Voilà, peut-être que une des causes de la centralisation du net, elle existe aussi, que c'est pas uniquement un constat que l'on peut faire contre lequel il faudrait se battre, mais il y a peut-être une cause plus profonde qui est la non-neutralité de l'outil central en économie qui est la monnaie. Bien sûr, forcément, ça va forcément avoir un impact. Alors, et on arrive donc au alors, c'est le dernier poste qui est peut-être le plus polémique de tous, hein, parce que les autres sont assez généraux. Bon, la génération Y, bon, ça parle d'une génération qui est, on sait pas trop si on en fait partie ou pas, donc ça reste... voilà. Mais là, le commencement était le DU, ça reste aussi très général, c'est une réflexion théorique avec... imagine une communauté d'humains comme ça, imaginaire, donc c'est imaginaire, donc c'est pas, on parle de personnes en particulier. Neutralité du net, ben c'est pareil, si, alors aussi on peut parler des GAFAM ou ce genre de trucs, mais bon, voilà. Mais le dernier, alors forcément, ça tape directement, puisque il est très bien aussi. Je crois qu'il a mis l'accent, bien sûr, sur quelque chose. Son titre, c'est Framasoft. Voilà, Framasoft, c'est une association maintenant connue, hein, des informaticiens en France, en tout cas des libristes, puisqu'elle défend les logiciels libres, au même titre que l'April ou que peut-être la Quadrature du Net aussi, qui s'occupe de la neutralité du net. Bon, voilà. Et donc, Framasoft, tu dis, le titre, c'est Framasoft dans le champ de valeur du privateur. Alors ça va pas leur plaire, parce que, évidemment, privateur, c'est l'opposé de libre. En général, c'est le terme qu'on utilise... ou qu'utilise en tout cas Richard Stallman, et moi aussi d'ailleurs je le trouve plus précis que privé ou propriétaire, privateur de liberté, c'est assez clair. Et donc associer Framasoft au privateur, c'est un peu les mettre devant quelque chose qui ne va pas leur plaire, hein, forcément, parce qu'ils pensent défendre le logiciel libre, mais tu dis Framasoft dans le champ de valeur du privateur, et non pas dans le champ des logiciels privateurs.
Ah oui, non, c'est exactement ça, c'est dans le champ de valeur. Hein.
Alors qu'est-ce que tu as voulu dire par là, voilà, dans ce poste-là, pourquoi tu as fait ce poste? D'abord, qu'est-ce qui t'a fait réagir? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce poste d'intéressant?
Alors, en fait, c'est arrivé, j'ai écrit ce poste assez vite, je crois, après les rencontres des monnaies libres, alors c'était lesquelles, les 7 ou les 6, je sais plus.
C'est le 28 novembre, donc 28 novembre, ça devait être appelé RML 8.
Ok, c'était juste après la 8, ouais. Et en fait, j'ai relu la TRM sur le chemin du retour, et notamment le chapitre sur le champ de valeur, quelque chose que je n'avais pas forcément très bien compris avant.
Ah oui, d'accord, ouais.
Et donc, là, ça m'a paru limpide, et au même moment où j'ai lu ça, je suis tombé sur l'article du Framablog, qui explique que Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale.
Ah oui, cette histoire de oui, le ministère de l'Éducation nationale, oui. Alors
Et donc
pourquoi alors,
l'histoire,
ouais?
en fait, c'était Framasoff qui avait essayé de faire d'entrer un peu au ministère pour leur proposer des logiciels libres, de leur dire, regardez, éduquer, enfin, faut pas faire l'éducation du privateur, vous allez enfermer les futurs écoliers, etc. Et puis ils sont un peu tombés contre un mur, quoi. C'est-à-dire que l'éducation nationale, elle en voulait pas, quoi, du logiciel libre, ce qu'ils voulaient, c'était du privateur. Et en fait, quand on lit leurs arguments dans l'article, on comprend pas trop, puisque il y a aucune raison comme ça de se dire, pour éduquer les enfants, on va quand même pas utiliser des choses qui vont les priver de liberté plus tard, quoi.
Ouais.
Mais sauf que ce qu'on voit pas, c'est qu'on voit, quand si on regarde que Framasoft ou le ministère de l'Éducation nationale, on regarde pas ce qu'il y a autour. Et en fait, le ministère de l'Éducation nationale, lui, il s'intègre dans un élément qui est plus vaste, donc il va s'intégrer dans l'État qui lui-même s'intègre dans un espace économique. Et cet espace économique, et ben aujourd'hui, par la monnaie dette, va mécaniquement demander à tous ceux qui y participent de créer des valeurs privatrices et pas créer des valeurs libres. Notamment en ce moment où l'État en plus est économiquement en difficulté, etc. Et il va pas s'amuser à faire du logiciel libre alors que ce qui va lui permettre de se renflouer, c'est d'aspirer les valeurs dans du privateur. Donc voilà, donc en gros, c'était. Je suis parti de cet article pour essayer un peu d'expliquer le principe du champ de valeur, de montrer les mécanismes de la monnaie dette. Donc qu'un crédit est émis, qui doit être remboursé pour. Donc le crédit crée l'émission de monnaie, et que son remboursement implique de rembourser plus d'unités qu'il n'en a été créé. Et donc en fait ça va faire un flux pyramidal vers un centre. Et ce flux-là, généralisé à toute l'économie, va créer une topologie économique, quoi. Donc avec un centre et puis des éléments autour du centre et qui seront eux-mêmes autour. Et petit à petit, chacun essaye de prendre sa part sur la valeur, d'aspirer un peu plus de valeur dans son coin. Et ça, évidemment, c'est complètement incompatible avec le logiciel libre qui, lui, cherche pas à aspirer de valeur, il cherche au contraire à la diffuser et à la rendre, et à priver personne de pouvoir utiliser une valeur et de pouvoir même la modifier. Donc voilà.
Et donc, est-ce que ça veut pas dire aussi qu'on est un peu comme on pourrait dire dans la caverne de Platon, où ceux qui tu connais sans doute le mythe de la caverne de Platon,
Avec
où
les ombres.
voilà ceux qui regardent les ombres, ils croient que l'espace, enfin le monde est comme ça, donc ils commentent les ombres et ce qui se passe sur le mur avec les ombres, ils vont l'expliquer avec des causes et des effets, hein, ils vont essayer d'expliquer ce qui se passe. Ah mais non, et parfois il y a des choses qui se passent qui sont incompréhensibles, qui échappent à toute explication causale. Et ce qu'ils voient pas, bien sûr, c'est que tout ça c'est que des ombres et que derrière ce qui se passe vraiment en trois dimensions, derrière, a des causes très différentes de ce qu'ils croyaient être les bonnes relations. Et voilà, donc ils échappent à ça, ils voient le monde sous un prisme en fait, ils ne voient pas le reste. Le reste, ils ne le voient pas, ils n'en sont pas conscients. Est-ce que ça veut pas dire aussi, est-ce que c'est pas une façon de présenter aussi ce champ de valeur? C'est-à-dire que quand on va. Eh bien, quand on ne va pas avoir encore pris conscience du rôle qu'a la forme de la monnaie, comme tu le disais là, eh bien, effectivement, on a une topologie économique particulière qui dépend de la monnaie qu'on utilise, qui influe cette topologie. Et donc, finalement, est-ce que on pourrait pas dire aussi que, eh bien, les acteurs de ce monde de monétaire là, de ce monde de monnaie dette là, ne questionnant pas la monnaie, la trouvant a priori logique sans se poser plus de questions que ça, ne voient finalement de valeur économique véritable que celle qui justement permet de rembourser des dettes.
Bah oui, puisque l'objectif quand on a sa part de monnaie, le but c'est de faire une plus-value monétaire dessus pour pouvoir rembourser ses dettes. Donc mécaniquement, les valeurs qui vont être monétisées, ça va être celles qui ont dans leur mécanisme de valorisation cette capacité à aspirer leur part de monnaie sur le chemin, quoi.
Et donc finalement, ça veut dire que les valeurs qui, elles, ne fonctionnent pas sur ce mécanisme de, disons, d'obligation, puisque qui dit dette dit obligation, d'ailleurs on appelle ça les obligations d'État, hein, les dettes de l'État. Donc ces valeurs qui ne sont pas justement soumises à des obligations, comme justement le sont les logiciels libres, sont tout simplement incompréhensibles pour quelqu'un qui travaille dans une topologie telle que celle de la monnaie dette, sans avoir vu la différence. Elles n'existent pas parce qu'elles ne génèrent pas de flux, et je dirais monétaire.
Exactement, elles
Hein?
n'apparaissent pas, mais même d'ailleurs pour les économistes qui analysent, on va dire, l'économie numérique,
Ouais.
les logiciels libres ne sont pas vus, en fait, ils ne sont pas pris en compte. On va
Oui, ça apparaît pas dans.
juste parler des sociétés qui sont extrêmement valorisées, etc.
Ouais.
Alors que si on regarde objectivement, sans regarder les chiffres qui sont créés, mais juste à quel point les logiciels libres sont utilisés dans le monde, et bien on va se rendre compte qu'ils sont énormément utilisés, seulement ils sont pas valorisés en monnaie, et donc ils apparaissent nulle part, et par conséquent, les producteurs de ces valeurs libres ne toucheront pas leur rémunération qui pourrait être considérée logique.
Oui, et effectivement. Et donc, ça peut être potentiellement tout à fait important. Alors, mais ce qui est vrai pour le logiciel n'est-il pas libre, hein, qui est connu maintenant un petit peu, quoi, que tout le monde ne le connaît pas. Il y a encore beaucoup de gens qui ne tout simplement même ne connaissent même pas la notion de logiciel. Hein, je veux dire, ça existe aussi encore, hein, aujourd'hui. Donc, ne parlons même pas de la différence entre logiciel non libre et logiciel libre. Mais ce qui est vrai pour le logiciel libre ici, donc qui est invisible alors qu'il est énormément utilisé. Bon, on pourrait dire aussi que 95% d'Internet fonctionne aussi grâce à GNU Linux, hein, faut quand même le rappeler, et à beaucoup de logiciels libres, et non pas par justement les sociétés cotées qui font des logiciels dont tu parlais. Mais ce qui est vrai pour le logiciel ne peut-il pas être vrai pour quantité d'autres valeurs finalement qu'on ne voit pas non plus, qu'on ne pourrait pas voir non plus?
C'est sûr et certain. En fait, si on généralise cette problématique qu'on arrive à voir assez facilement, parce que les logiciels libres sont quand même très présents dans la vie de tous les jours, quand on est informaticien du moins, si on généralise ce problème à quelque chose de plus vaste, si on se dit bah, que nous-mêmes, il y a des valeurs qu'on voit pas parce qu'on n'est pas au courant et qu'on travaille pas dessus, etc. En fait, il y a énormément de valeurs qui aujourd'hui n'existent pas, n'apparaissent pas. Alors, enfin, elles sont présentes, mais on ne les voit pas, quoi.
Et donc, in fine, ces valeurs économiques effectivement invisibles, puisqu'on si on généralise, on est bien à même de pouvoir dire, nous aussi, même si on connaît le logiciel libre, on doit pouvoir admettre que des hommes créent des valeurs que l'on ne voit pas, que l'on ne connaît pas, qui donc n'apparaissent pas dans le PIB, puisqu'elles n'ont pas cette propriété qu'ont les valeurs privatrices, alors que pourtant elles sont utilisées par tous, elles sont aussi utilisées d'ailleurs par ces mêmes valeurs privatrices qui souvent les utilisent à leur profit pour créer d'autres valeurs, pourquoi pas, mais du coup cette part de valeur-là n'ayant pas reconnue, on ne rémunère pas au final leurs producteurs, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que leurs producteurs fournissent un travail qui n'est pas reconnu et qui donc ne leur permet pas finalement de le poursuivre dans de bonnes conditions, alors qu'ils pourraient le faire, parce qu'en fait on ignore leur production, parce qu'on ne veut reconnaître que les valeurs qui obligent à la rémunération forcée.
Bah oui, bah d'ailleurs on voit dans le logiciel libre, on a souvent des problèmes de burn-out ou des choses comme ça, parce que les producteurs de valeurs libres en fait sont obligés de travailler pour des valeurs privatrices, en plus de leur projet de valeurs libres. Et donc forcément, eux, ils créent finalement quelque part deux fois plus de valeur que les autres, mais ils vont être rémunérés, ils vont juste être rémunérés pour ceux qui n'ont même pas envie de produire des valeurs privatrices. Et puis on peut voir ça sûrement dans plein d'autres domaines. Donc après, il faudrait observer dans le milieu de la musique, dans le milieu de l'agriculture, dans le milieu. Il y a sûrement plein plein de valeurs comme ça qui sont créées gratuitement par certains et que d'autres utilisent à leur profit sans les rémunérer en conséquence, quoi.
Mais même si on vérifiait, est-ce qu'on pourrait être sûr de les avoir toutes vues?
Bah non, ça c'est un principe qu'on comprend assez vite, c'est que on peut pas être sûr et certain d'avoir découvert toutes les valeurs existantes à l'instant T.
Donc est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là de G-valeurs concernant ces valeurs-là?
Voilà, les G-valeurs. Les valeurs qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas valorisées et qui nous sont invisibles, elles sont trop loin de nous.
Alors que peut-être un jour, enfin même sans doute un jour,
Peut-être qu'un jour, oui.
en fait, mais là.
Possible qu'après notre mort, ces valeurs aient apparu et soient rendues d'un seul coup extrêmement utiles aux autres. Bien, dans l'histoire, on en a plein d'exemples de valeurs qui ont été créées sans que les producteurs ont été rémunérés pour ça.
Donc la preuve de l'existence de ces G-valeurs finalement existe. Elle existe dans le passé.
Oui, exactement, c'est une preuve expérimentale.
Voilà, on peut vérifier qu'il y a beaucoup de valeurs qui n'ont été reconnues économiquement parlant, c'est-à-dire qui ont fait l'objet de transactions, je dirais, économiques dans le type de monnaie connue aujourd'hui comme étant la monnaie dette. Mais ces échanges-là n'ont été faits qu'après la mort de leur créateur qui eux, n'ont jamais pu être rémunérés de la part de travail, de valeur qu'ils ont produite. Donc c'est-à-dire que d'un côté, on est obligé de reconnaître que ces valeurs existent après leur mort. Et que donc forcément, il y a eu un travail qui a été fait qui n'a pas été rémunéré.
Exactement. Et donc dire aujourd'hui que le travail est une valeur entre guillemets absolue Mais le travail marchand, on parle pas de n'importe quel travail, hein, aujourd'hui dans le discours, eh bien, c'est une erreur fondamentale, puisqu'en fait, quand on regarde dans le passé, on voit bien qu'il y a eu plein de travaux qui ont été effectués et qui n'ont jamais été reconnus à ce moment-là. Et donc, est-ce que le travail est vraiment une valeur absolue ou est-ce que c'est autre chose?
Voilà, ou en tout cas une valeur absolue, non, ou je dirais moi une valeur mesurable, à un instant T.
Oui,
C'est pas
mais
du pas.
voilà, finalement c'est ça, quand on cherche la valeur absolue, quand on dit la valeur travail, il faut que tout le monde travaille, quand ils travaillent de manière marchande, c'est parce qu'on sait que c'est une des valeurs qu'on peut mesurer à l'instant T, donc qui vont faire grossir le PIB, qui vont faire
Voilà.
baisser le prix de la dette, etc., quoi.
Et donc on retourne à l'argument que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la caverne de Platon, ils ne voient, ils ne reconnaissent que les valeurs qui font objet d'échanges. Ils ne voient pas les créateurs, ils ne voient pas les producteurs, et donc finalement c'est comme s'ils avaient des œillères finalement sur les yeux. C'est l'âne sur lequel on le met les œillères pour pas qu'il voie sur les côtés.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Là où les producteurs vont créer la valeur, ils vont regarder que les valeurs qu'ils arrivent à voir et pas les et qui sont dans leurs œillères.
Voilà, et qui sont mesurés en tout cas. Voilà, tout ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Comme si en science on savait pas, par exemple, que je sais pas, les électrons existent alors qu'on n'en a jamais vu.
Plein de débats sur l'existence de tel ou tel phénomène. Donc aujourd'hui, l'avantage c'est qu'en science on peut théoriser et expérimenter facilement,
Ouais.
alors que là dans l'économie c'est les humains qui vont devoir mesurer ce que eux-mêmes produisent. Donc ça demande de trouver le bon outil pour le faire.
Et alors, alors, ça serait quoi le bon outil à ton avis, alors du coup?
Mais un outil serait un outil qui permet de mesurer les valeurs produites relativement aux humains, puisque c'est eux-mêmes qui vont mesurer et les produire. Donc une monnaie qui serait créée symétriquement pour chaque individu à travers un dividende universel. Une monnaie libre.
Une monnaie libre alors. Mais je crois que c'est une excellente conclusion, hein, pour ce podcast. Il faudrait donc une monnaie libre, mais justement on est là pour ça. Donc j'ai test la quatrième, cinquième on va dire, allez tiens, cinquième avec celle de Mérôme. Cinquième monnaie libre lancée, toujours encore en l'état de test, puisqu'il faut, il faut encore verrouiller un certain nombre de choses, mais très 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 mature, hein. Je crois que les testeurs actuels s'en rendent compte. Tout ça a été profondément pensé et développé. On est sur une blockchain, on est sur des décentralisés. On a une toile de confiance en plus, on a une complexité supplémentaire et on peut générer une monnaie libre. Voilà. Donc ça, vous pouvez vous en rendre compte en rejoignant la monnaie Gtest, et en vous appropriant les concepts. Et une fois qu'on les connaît, c'est pas si compliqué que ça, hein.
Ah
Ça
non,
marche.
honnêtement, c'est presque trivial.
Voilà. Et donc on se donne rendez-vous aussi, on donne rendez-vous aux auditeurs aussi pour les RML9, pour ceux qui voudraient venir contribuer au développement informatique, avant tout, bien sûr, c'est avant tout des rencontres informatiques. Ceux qui veulent aussi contribuer sur des domaines un peu moins informatiques, on en a besoin aussi, on a besoin de traducteurs, on a besoin aussi de conférenciers qui peuvent pouvoir expliquer. Il y a par exemple des mathématiciens, ne sont pas forcément tous des informaticiens, et ils savent aussi bien expliquer ces principes, on en a aussi. Et puis bon, mais tous ceux qui s'intéressent à la monnaie libre, qui veulent en comprendre un peu plus, eh bien RML9 en juin. INSO, bien sûr, sera là, comme il était au RML8, comme il était au RML7 et toutes les RML précédentes. Avec d'autres encore. Merci de nous avoir accompagnés, Inso, sur ce nouveau Monnaie Libre.
Ouais, merci pour ton invitation.
Voilà, merci à tous de nous suivre. Et bien donc, je vous laisse après cette belle émission. Là, on a encore fait une très bonne heure, hein, de discussion avec Inso, vous voyez. Et bien, avec notre générique fétiche maintenant, No More Dreams sur Monnaie Libre. Au revoir.
We'll be right back.